L'espace du terrain vague n'est pas étranger à la géographie littéraire. Associé au désordre, aux marges, aux franges, il fournit dans les romans où sa représentation dépasse la simple mention non seulement une surface où peut s'ancrer l'imaginaire, mais également un contenant, une chambre d'écho, où les tensions se trouvent mises au jour et exacerbées. En cela, on peut dire de cet espace qu'il est un révélateur, un amplificateur et un écran tout à la fois. Une remarque du détective Lecoq, le personnage créé en 1868 par Émile Gaboriau, le père du roman policier français, fournit de ses fonctions étonnantes du terrain vague un exemple éloquent. Ce terrain vague, couvert de neige, est comme une immense page blanche où les gens que nous recherchons ont écrit, non seulement leurs mouvements et leurs démarches, mais encore leurs secrètes pensées, les espérances et les angoisses qui les agitaient. Comme l'observe Andrea Goulet, cette remarque du détective projette le terrain vague dans l'abstraction. Elle le transforme en pur champ épistémologique, en lieu d'inscription et d'interprétation. Cette conception du terrain vague comme grand livre aux pages blanches, prêt à être noirci par l'expérience de ceux qui le traversent, s'y arrêtent, le transforment, l'occupent et le quittent, trouve de multiples résonances dans les représentations qui en sont faites en littérature pour la jeunesse. Dans les romans et albums, où il en constitue l'espace central, le terrain vague apparaît occuper deux fonctions principales. Puisqu'il faut comprendre que je me suis intéressée qu'à des œuvres qui mettent en scène vraiment le terrain vague. En premier lieu, il agit comme support d'une prise de conscience de soi. Il se présente alors comme un espace transitionnel où le personnage peut éprouver ses forces et ses faiblesses, un lieu où il peut exprimer sans contrainte sa joie comme sa douleur ou sa sauvagerie, une enclave comme un creuset où transformation et métamorphose deviennent possibles. La seconde fonction du terrain vague consiste-t-elle également en une prise de conscience, mais sociale celle-là, qu'accompagne le plus souvent une action transformatrice. Enfin, peu importe sa fonction particulière dans le cadre d'une œuvre, le terrain vague s'avère un espace qui s'ouvre sur l'imaginaire, que ce soit par le rapport qui s'y établit à d'autres œuvres littéraires ou par le rêve et la fantaisie qui s'y manifestent. Les 9 œuvres qui serviront ici d'illustration à ce qui constitue, je veux le souligner, l'amorce d'une réflexion sur la question, ont été sélectionnées en raison du fait que le terrain vague pour 6 d'entre elles se trouvait mis au cœur de l'histoire et que pour les 2 autres, le terrain vague dans le programme spatial de l'œuvre constituait de manière significative l'espace final de destination du personnage. La première partie de ma réflexion qui portera entre autres sur ces 2 dernières œuvres, s'intitule « Le terrain vague comme espace de contact avec l'imaginaire ». 2 œuvres, un album et un roman photographique proposent le parcours d'un personnage dont le port d'arrivée est un terrain vague. D'entrée, il faut souligner que ces 2 titres, « The Girl in Red » de Frisch et Innocenti et « Entre chien et loup » de Charlotte Gingras, sont marqués par la présence d'un intertexte merveilleux. Dans les 2 cas, si ce n'est toutefois pas de la même manière, un conte merveilleux sert de trame de fond à chacune de ces histoires, qui trouveront leur conclusion en terrain vague. Ce conte, les titres le laissent supposer, « The Girl in Red »,« Entre chien et loup », ce conte est « Le petit chaperon rouge », dont l'espace premier dans sa mouture originale est, faut-il le rappeler, celui de la forêt. Dans les œuvres contemporaines, la forêt deviendra la ville, et le terrain vague, lui, il assumera symboliquement le rôle de ses clairières où, dans les contes merveilleux, le héros subit des épreuves qui mettent en péril sa vie. The Girl in Red. Dans leur réécriture du Petit Chaperon Rouge, The Girl in Red, Frisch et Innocenti illustrent de manière exemplaire cette topographie symbolique du conte qu'ils revisitent dans un contexte urbain. La clairière et l'orée du bois des contes deviendront terrain vague. La ville, elle, toute de béton soit-elle, sera forêt. Our story takes place in a forest, excusez mon anglais, this forest has few trunks and leaves. It is composed of concrete and bricks instead. Après toutes les précautions d'usage de sa mère, Sophia, le petit chaperon des villes, plonge dans la forêt. Au cœur de cette forêt se trouve The Wood, un immense complexe commercial, un monument à la consommation. C'est là que Sophia, en route pour aller tenir compagnie à sa nana malade, succombe à la tentation. La petite fille en rouge s'arrête pour contempler les vitrines et, au sortir du complexe, ne retrouve plus son chemin. The trail is lost. Un motocycliste, de toute évidence émule de Schwarzenegger, vient à la rescousse du chaperon. Il lui fait faire un bout de chemin sur le périphérique. Or, le bon samaritain ici n'est pas tout à fait ce qu'il y paraît. Sa dualité s'exprime dans sa caractérisation contradictoire. Et je cite, « A smiling hunter, what big teeth he has! » Voilà qui explique qu'ayant aussitôt quitté Sophia, il se rendra chez la grand-mère avec le résultat qu'on sait. Dans l'économie urbaine, comme on peut le voir sur cette image, l'espace sur lequel est posée la caravane de Nana est un terrain vague, certes, mais plus précisément rappelle ces « edgelands » entre ville et campagne décrits par Marion Short, ces espaces, écrit-elle, « apparently unplanned, certainly uncelebrated and largely incomprehensible ». De fait, la caravane se retrouve étrangement située, toute coquette sur une terre désertée sous les bretelles de l'autoroute, dans une zone interfacielle entre la ville et sa périphérie. La route qui y mène affiche une sémiotique, elle aussi abstruse, cherchant à fournir, comme le terrain vague du détective Lecoq, les clés de sa propre lecture. De nombreux signes, mots, logos et symboles ponctuent l'itinéraire de Sophia en une sorte de salmigondie linguistique et sémiotique. Je vais vous remettre l'image. Par exemple, ce sont des caractères chinois qui, devant les piles de pneus et le cimetière d'automobiles, indiquent la direction vers le centre-ville. Les signes signifient la forêt. Dans cette même scène, le beau temps se conjugue aux nuages de pluie. Des grenouilles sur le chemin, comme les princes des contes de fées, semblent attendre le baiser qui les révélera. De ruelles en terrain vague jusqu'à l'Edgeland, l'histoire originale du petit chaperon rouge se trouve ainsi réécrite. Mais l'histoire ne se termine pas là. Le terrain vague n'est-il pas, disions-nous, le cadre de tous les possibles? Ainsi en sera-t-il. Le conte ne donnera pas lieu à une fin, mais à deux finales. D'abord, la fin horrible, réservée au petit chaperon rouge de Charles Perrault, représentée ici sous la forme du climax d'une scène policière, à la fin de laquelle, on peut le présumer, le coupable sera ou tué ou arrêté. Puis, revirement. Now, children, do not be ashamed of your tears. They are as natural as the rain, but they are not necessary here. Remember the things about stories. Stories are magic. Who says they can have only one ending? Suit alors une nouvelle vue du terrain vague et de la caravane. Voilà Nana et Sophia, saines et sauves, comme dans la version des frères Grimm, mais déjà aux mains de la horde de journalistes qui viennent rendre compte de ce happy ending, signalé de manière artificielle par l'affichette que tient un policier souriant et saluant le lecteur pour marquer la fin de l'histoire. On peut le constater, dans The Girl in Red, l'espace prend toute la place, tant les espaces habités et policés que ceux dits espaces délaissés, pour employer la très belle formule de Gilles Clément dans son manifeste du tiers paysage. L'espace, chez Frisch et Innocenti, n'est pas décoratif. Il est parlant. Il offre une critique de la société de consommation, de l'aveuglement qui menace l'humain. La représentation du terrain vague à la fin de cette histoire, ses deux visages, celui de la mort et celui de la vie, illustre sans conteste l'invention qui accompagne la mise en œuvre du terrain vague en littérature pour la jeunesse, de même que le sérieux de la réflexion qui, comme on le verra, lui apparaît associé dans tous les cas. Entre chien et loup maintenant, de Charlotte Gingras. Dans Entre chien et loup, de Charlotte Gingras, une adolescente errant dans la ville laisse derrière elle, comme le petit pousset, des traces sous forme de messages éphémères. Ces derniers, elle les écrit sur un mur de briques, sur le plancher d'une église, sur le napperon d'un restaurant, sur un mur de ciment. Le lecteur adopte la posture de l'homme qui suit la jeune fille anonyme. Cet homme qui, la voyant mendier, lui dit au tout début de l'histoire « Je suis travailleur de rue, je t'ai jamais vu dans le secteur, as-tu besoin d'aide? » La mendiante ne lui répond pas, se lève, s'en va. Un peu plus loin, elle écrit sur un mur « À côté de l'arbre au sac, une maison de poupée flambe. » Ces premiers mots de l'errance, destinés à qui voudra bien les lire, indiquent, comme le nom d'une ville sur une carte, la destination de son parcours. Ils ne seront compris par l'homme qu'au terme de cette journée de filature qui l'amènera, comme autant de stations du chemin de croix, à ressentir la douleur de la jeune fille chaque fois qu'elle s'arrêtera pour laisser derrière elle un autre message. Le propos d'Entre chien et loup donne à voir un itinéraire urbain qui ressemble à celui de The Girl in Red, Cependant que la fonction même de ce parcours et du terrain vague qui en marque le terme est bien différente. Depuis le métro du centre-ville, l'homme suivra sa protégée jusqu'à la clôture aux mailles disjointes qui permettront à l'adolescente de se frayer un chemin vers sa maison dans le terrain vague qui borde la voie ferrée. Une bande d'oiseaux criards picorait à travers les déchets. Tu avais marché une dizaine de mètres jusqu'à un arbre de petite taille noir et nu, des sacs de plastique accrochés à ses branches. À côté de l'arbre, un fauteuil rose éventré et une boîte de carton énorme, de celles qui renferment des réfrigérateurs. Encore une fois, tu t'es mise à quatre pattes et tu es entrée dans ta boîte, comme un chien dans sa niche. Jonché d'ordures et d'objets, le terrain vague se donne comme expression du désordre intérieur et de la solitude de la jeune fille. La nature y est fragile, maladive, caractérisée par le manque de même qu'elle est sauvage, comme cette adolescente qui bientôt ressort de sa tanière pour réaliser son projet, mourir. Elle fait flamber sa maison de carton. Sur le mur de ciment qui marque les limites de sa prison, elle écrit des mots rouges, des mots qui giclent, des mots qui ne ressemblent à rien, des mots violents. À soir, c'est le dernier soir. Une étoile explose de chaque bord de la traque. Vêtue d'un chandail rouge, elle se dirige ensuite vers la voie ferrée. L'homme comprend l'intention de l'adolescente. Il court vers elle. C'est là que c'est arrivé. Une chose incroyable. Une bête m'a dépassée. Elle surgissait de nulle part, puissante, bondissante. Un loup? Un chien? Elle se rua vers la voie ferrée, sauta sur toi, te projeta hors des rails. Ce ne sont que des mois plus tard que l'homme et la fille se reverront. Elle, lumineuse, vêtue d'une robe à capuchon rouge, lui remettra en main propre un dernier message. L'homme a veillé sur la fille de l'ombre, en attendant que la vie revienne entre chien et loup. Le parcours dans la ville, le chandail rouge, le chien-loup, la robe à capuchon, illustrent sans contredit une association entre le motif spatial du terrain vague et le petit chaperon rouge. Dans l'œuvre de Gingras, comme dans celle de Fritsch et Innocenti, la finale, pour le lecteur qui s'attend au pire, relève du renversement. La mort programmée par l'intertexte du conte de Charles Perrault ne survient pas. Dans Entre chien et loup plus particulièrement, ce qui s'annonçait tragédie, suicide, se révèle métamorphose. Comme si s'instaurait entre le texte et le lecteur, par la voie secrète des motifs qui, venus d'autres textes, se déposent sur l'espace final, une sorte de jeu du vrai et du faux. L'espace du terrain vague dans cette perspective se révèle ainsi, pour le lecteur, comme un espace ludique. Terrain vague comme espace de la découverte de soi et espace d'une prise de conscience sociale. Alors, j'avais un autre album, mais je vais passer, c'est Le tunnel d'Anthony Brown, qui se passe, je vais passer vite les images, mais dans un terrain vague, une mère envoie ses deux enfants dans le terrain vague, puisqu'il n'arrête pas de se chamailler. Et le petit garçon découvre un tunnel, la petite fille s'y engage. Et ce sera encore là, l'occasion d'un petit chaperon rouge. Alors encore cette association entre le terrain vague et le petit chaperon rouge. La réflexion que nous venons de faire sur les rapports entre le terrain vague et l'imaginaire n'épuise pas la liste des cas de figure qui méritent d'être soulignés. Néanmoins, il sera plus judicieux pour l'heure d'opérer un léger virage pour s'attarder à certains traits qui caractérisent les romans et pièces de théâtre dont l'histoire se déroule pour l'essentiel en terrain vague. Quelques exemples nous serviront à illustrer les fonctions du terrain vague dans ces œuvres, à l'empan plus large, qui permettent l'établissement d'un rapport plus étroit entre le personnage et son espace. Ceci nous permettra de mieux illustrer comment ce terrain vague tangue et frémit lorsqu'il devient espace de la découverte de soi et comment ce même terrain peut devenir lieu que l'action et la manifestation animent lorsqu'il devient espace d'une prise de conscience du social. D'abord les émotions, le déploiement de soi, l'explosion devrais-je dire pour parler de Supernova, une pièce de théâtre de Catherine Dell destinée aux adolescents et aux jeunes adultes. Dans cette pièce, un terrain vague est pris d'assaut par trois adolescents, Brésil, 12 ans, et sa sœur Rachel, 14 ans, aussi Mathilde, la meilleure amie de Rachel. L'histoire est complexe, difficile à résumer. Disons que Brésil et Rachel sont tous deux abusés sexuellement par leur père, qui, à ce moment, occupé par quelqu'un d'autre, leur a demandé de faire de l'air. Brésil est là, quelque part, derrière, à tuer et à enterrer des chats, en leur donnant des noms d'étoiles pour créer sous le sol du terrain vague une galaxie. De son côté, Mathilde découvre son désir pour son amie Rachel et ne cesse de la questionner sur son corps qui change, veut la toucher, exprimer ce qui émerge. Les trois personnages entretiennent un rapport d'attachement très fort au terrain vague, ce que marque la prise du sous-sol par Brésil et celle de la surface par les deux adolescentes qui décident d'y ériger un totem fait d'une pancarte trouvée là. Or, ces mots qu'ils veulent écrire dans la terre en y plantant comme des découvreurs leur croix vont leur échapper. Le panneau emprunté à l'espace d'avant eux porte déjà des inscriptions. Un avis d'urbanisme, l'annonce d'une prochaine construction. Une réunion des formations est convoquée, Rachel et Mathilde s'y préparent sérieusement, mais elles sont refoulées à l'entrée. Vous n'avez pas 18 ans. De là, le désespoir. Ce sera la dégringolade, jusqu'à ce que Brésil tue Mathilde, puis se tue lui-même. La mort encore, mais ici inéluctable et réussie. Le terrain vague dans cette pièce est un réceptacle des douleurs trop vives des personnages et une surface prometteuse d'un mieux-être. Occuper ce territoire, c'est apprendre pour Rachel, l'enfant abusé, à s'appartenir. Le totem, c'est nous. Ils ne peuvent pas y toucher. C'est loin maintenant, ces affaires. On n'y touche pas à ça. Ce terrain est à nous. Ça, c'est à moi encore, et ça reste. Ça seulement. J'interdis d'y prendre même un bout, même tout petit. Le terrain vague est donc ce corps recomposé sur les corps décomposés. Eux-mêmes, par ailleurs, promis à la lumière, tel qu'en témoigne cet extrait de la dernière réplique de Brésil avant de mourir, cette réplique qui clôt la pièce. On aura parlé loin, loin dans la Terre en son centre, loin dans la galaxie. Je vais dégager autant de lumière que 10 000 millions de soleils, 10 000 millions de soleils qui parleront pour nous. Ça y est, Rachel, enfin, je vais chercher du secours, Rachel. Ça y est. Il pointe l'arme dans sa bouche et tire. De la lecture de cette dernière œuvre très dure, j'avoue, mais aussi des autres qui l'ont précédée, une constatation semble se faire jour. L'occupation du terrain vague par les enfants ou les adolescents en autonomie s'accompagne inévitablement, c'est du moins le cas ici, d'une joute avec la mort, comme les héros des contes de fées ou des romans médiévaux qui, dans les clairières, jouent leur vie sur un coup d'épée, un sort ou la flamme du dragon. Serait-ce dire que ce qui touche enfants au terrain vague risque de quelque manière de se brûler? Veut-on ici prévenir les enfants du danger de ces lieux que l'imaginaire policier ne manque pas de dessiner glauque? Voilà en tout cas une hypothèse qu'une recherche plus approfondie pourrait permettre de confirmer ou d'infirmer. Elle s'avère d'ailleurs d'autant plus intéressante que dans les romans que je n'ai pas encore évoqués et que j'aurai probablement pas le temps d'évoquer, Le Jobard, Le Cabanon de l'oncle Joe et La Fille de la forêt, l'appropriation de l'espace du terrain vague est le fait d'adultes, ici des hommes, dans tous les cas, et non d'enfants. Dans ces cas, le terrain vague profite de l'attribution d'une valeur plus intrinsèquement positive. Les adultes, pour la plupart assez originaux, qui en prennent possession, le modèlent à leur guise et en font un espace accueillant pour les enfants. Ainsi, le Jobard, dans le roman éponyme, est-il un vieux grincheux dont la maison jouxte un terrain vague où il est à construire une mystérieuse tour en bouteille de verre? Les jeunes du quartier le craignent et leurs parents croient que le Jobard est un criminel. Le vieil homme se voit donc caractérisé par les autres à l'image de l'espace d'apparence désordonnée qu'il investit. Au final, toutefois, le terrain vague se trouvera être le reflet non de quelque chose de négatif, mais bien de la différence, reconnue du Jobard. Aussi, ce seront ceux de l'extérieur, enfants comme parents, qui, après avoir eu le courage de pénétrer dans son territoire, s'en trouveront changés à jamais. Et j'en passe, et j'en passe. En conclusion, je dirais qu'enfant comme adulte, les terrains vagues m'ont toujours fasciné. Je les ai observés, photographiés, y ai déambulé, les ai traversés. Toujours, toutefois, ces espaces me sont apparus porteurs d'autre chose. Leur visite littéraire me conforte dans cette idée que le terrain vague vaut plus que la somme de ses parties. Il y aurait eu encore, par exemple, beaucoup à dire sur les liens du terrain vague au temps. Un terrain vague ne l'a pas toujours été. Sa peau stratifiée porte les marques d'incarnation successives, comme son sous-sol ou comme ses limites alors qu'on peut en trouver les fantômes sur les murs qui l'encadrent. Le terrain vague est porteur d'une temporalité qui n'a, semble-t-il, de limite que le nombre de ses états successifs. Et ceci, à nouveau, me fait penser au texte, à l'écriture. Il y a une poésie certaine dans l'idée du terrain vague, l'obligation d'un éternel recommencement. N'est-ce pas un peu ce qu'en disait Denise Desautels lorsqu'elle écrivait ces mots sur lesquels je conclurai. Vivre, écrire, résister donc, à partir des trous de silence, accumulés dans la solitude choisie de la chambre, qui redonne de la nécessité, de la densité aussi à chaque mot, à chaque émotion, avant que mon corps ne fasse naufrage au beau milieu d'un terrain vague et de sa rumeur unanime. Voilà. Merci.